déchargé. Oh, tu m'as déchargé. Tu m'as déchargé du poids de mes fautes. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Juste réjouissez-vous. Oh, 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 oh. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Juste réjouissez-vous, les
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour notre culte en ligne. J'espère que vous êtes nombreux à avoir pu vous connecter pour vivre ces moments. À circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels. Les dernières mesures de gouvernement, de restrictions, ne nous permettent pas de nous rassembler pour vivre nos cultes, nos réunions de prière, nos groupes de maison. Nous vous proposons donc de vivre ce culte depuis chez vous, en famille. Merci à Pedro, merci à Frédéric d'avoir travaillé d'arrache-pied depuis hier, pour le rendre techniquement possible. Cela change totalement nos habitudes. Cela fait bizarre de vous parler devant une caméra depuis chez moi, sans vous voir physiquement. Vous nous direz comment vous avez vécu cela. Tant de crises, tant d'entreprises, disait un des fondateurs de l'Institut biblique de Genève au sortir de la Première Guerre mondiale. Ce temps d'épreuve chamboule nos repères, nous isole les uns des autres. Qu'il puisse nous faire revenir à l'essentiel, écouter ce que Dieu veut nous dire, et le laisser prendre les commandes de ces événements. Les murs qui nous rassemblent ne sont pas l'Église. L'Église de Christ est constituée de chacun de nous. Si nous n'avons pour un temps plus de lieu pour nous rassembler, nous demeurons les pierres vivantes de l'Église où que nous soyons. Nous allons chacun devoir développer notre communion sur d'autres moyens, sans contact physique. Un groupe WhatsApp a été créé pour l'Église, où vous pouvez échanger. D'autres peuvent voir le jour pour organiser d'autres échanges entre deux groupes. Nous devons continuer à nous retrouver pour échanger sur notre foi, pour continuer à prier les uns pour les autres, pour l'Église et pour le monde, et cela via les réseaux, via les moyens technologiques. Cette communion de l'Église n'a pas de limite de mur, de restrictions sanitaires, pas de frontières. Et les catastrophes, bien que douloureuses, représentent des occasions de croissance, car elles donnent à Dieu le moyen d'augmenter notre foi. Nous avons le choix. Soit nous rebeller contre lui, comme Pharaon l'a fait lorsque les plaies s'abattaient sur son pays, l'Égypte, ou soit l'écouter et apprendre ce qu'il veut nous enseigner. Quoi qu'il advienne, il est souverain sur les événements qui se produisent. Avons-nous confiance en lui?
Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps.
Dieu est bon en tout temps. J'avais à cœur ce chant pour nous rappeler que même dans les circonstances difficiles, Dieu est présent et il n'est accompagné, il n'est pas étranger à nos difficultés. Prions pour nos autorités. Un des aspects qui m'a particulièrement interpellé dernièrement, c'est que nous ne risquons pas grand-chose, nous, face à cette épidémie, nous les bien portants. Et les mesures qui sont prises aujourd'hui visent à protéger les plus fragiles, les personnes âgées, les malades touchés durement dans leur défense immunitaire, quitte à mettre notre confort et nos habitudes en suspens, et même mettre en péril l'économie mondiale. Et je crois que c'est sans précédent. Et j'ai prié que Dieu bénisse ses autorités, parce que c'est par elles qu'il prend soin de nous aussi. Et c'est par elles qu'il prend soin des faibles. Comme dit dans le chant que nous chantons de temps en temps, tu viens relever le faible. Il est de notre devoir de remercier Dieu pour ce qu'ils font et de lui demander de continuer à les inspirer et les soutenir dans leurs décisions. Prions pour qu'ils prennent les bonnes mesures. Prions aussi pour ceux qui auront à charge nos cités et pour qui nous devons aller voter aujourd'hui. Prions pour nos dirigeants, afin que la paix dont nous bénéficions puisse perdurer, la liberté que nous avons, les libertés que nous avons, puissent persister.
Psaume chapitre 32 de David, poème. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un muet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur.
Lorsque j'ai préparé cette présidence, avant que les différentes contraintes nous soient imposées, j'avais à cœur ce psaume 32 pour notre moment de prière. Lors de nos cultes et nos rayons de prière, nous partageons souvent nos sujets de reconnaissance, nos inquiétudes, nos projets, et nous intercédons ensemble pour différentes personnes dans la prière. Cela est bien et notre Père dans les cieux les entend. Pourtant, la repentance évoquée dans ce psaume me semble souvent négligée dans ma vie de prière. J'imagine que cela est peut-être vos cas, non? Tant mieux alors. Elle est pourtant essentielle dans notre relation avec Dieu et dans notre croissance spirituelle. Dieu voit avec horreur le moindre de nos péchés dans nos vies, mais nous avons la grâce qui peut être effacée, que nous pouvons en être déchargés. Mais Dieu nous demande de nous en repentir. Cela veut dire les reconnaître, les nommer, les avouer et les abandonner à Christ qui a versé son sang en les portant sur la croix. Je vous propose donc deux chants, puis un temps personnel devant Dieu pour lui demander pardon pour nos fautes. Que nous puissions demander à son Saint-Esprit de nous les révéler et de nous convaincre de ce qui doit être pardonné.
Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances, bien enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon.
Le pardon est une fête. Il procure la joie car il met fin à un procès et rétablit une relation entre deux personnes. En premier lieu, entre Dieu et nous, puis entre les hommes. Écoutons et chantons ce chant de Antidote, déchargé.
Aussi longtemps que pour moi je gardais mes fautes, mes péchés comme un secret, c'est comme si mon corps dépérissait. La nuit, le jour, sur moi ta main pesait. Et je t'ai avoué, je ne t'ai plus caché. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel tous les péchés que j'ai commis.
Nous allons donc écouter le message de François maintenant, pris à partir d'une autre caméra enregistrée dans un autre lieu. C'est beau la technologie.
Alors, mon texte. Bonjour à toi, alors c'est pas enregistré, c'est du direct. Alors, je suis pas un habitué de la chose, moi. Voilà, mais j'espère que vous allez tous bien, même si on est effectivement tous à distance. Dans un même esprit, nous pouvons être ensemble. Et c'est une grâce de la part de notre Dieu de pouvoir effectivement vivre cela. Ce matin, je vous invite donc un peu à oublier les virus et les microbes et à nous focaliser encore pour nous réjouir et nous encourager sur la grâce extraordinaire, merveilleuse, effectivement, que nous avons en Jésus-Christ. Et pour cela, je vous invite à ouvrir la Bible dans le chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 18, et nous en lirons la première partie, à partir du verset 1. On va essayer de projeter en même temps les slides comme on fait d'habitude à l'église, que vous ayez le même texte et les mêmes choses que je vais dire et que je vais lire. Alors, on a une diapo trop loin. Voilà, Matthieu chapitre 18, à partir du verset 1. À ce moment même, les disciples vinrent demander à Jésus : qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Il appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : Amen, je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui suspende une meule de moulin au cou et qu'on le noie au fond de la mer. Quel malheur pour le monde ! Il y a tant de causes de chute. Certes, il est nécessaire qu'il y ait des causes de chute, mais quel malheur pour l'homme par qui cela arrive. Si ta main ou ton pied doivent causer ta chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou infirme que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans borgne dans la vie que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leur ange dans les cieux voit constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. Qu'en pensez-vous ? Si un homme a 100 moutons et que l'un de s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller chercher celui qui s'est égaré ? Et s'il parvient à le retrouver, amen, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ce matin, j'ai à cœur de revenir sur ce riche chapitre que nous avons déjà abordé il y a quelques mois et qui fait partie du quatrième groupe d'enseignement du Seigneur que Matthieu a compilé sur la thématique particulière des relations entre disciples. Et en tant qu'Église, en tant que communauté, il est évident et évidemment important d'y réfléchir régulièrement, car nous savons qu'au sein de l'Église, il est possible de prendre soin des autres, mais aussi malheureusement de les blesser. La fraternité et l'unité du groupe, même à distance, dépendent des attitudes qui sont entretenues les uns par rapport aux autres. C'était d'actualité pour l'Église primitive, ça l'est encore aujourd'hui, et soyons lucides, ça le sera jusqu'au retour du Seigneur. Je laisse volontairement de côté le tout début du chapitre et ce questionnement un peu puéril et égocentrique des disciples qui veulent savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. J'ai déjà évoqué cela il y a 15 jours en lien avec le fait que Satan voulait passer au crible les disciples, mais surtout avec la Pâque que nous célébrerons prochainement. On verra sous quel format on pourra le faire, mais nous aborderons certainement la réponse de Jésus qui disait que « quiconque se rendra humble comme cet enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux ». C'est le verset 4 de notre passage. Car c'est bien ce que lui, le Seigneur, a fait à ce moment-là. Il a été l'exemple suprême d'abaissement. Et la véritable grandeur, on le sait, c'est d'être trouvé petit, La vraie valeur, c'est de ne pas chercher à en imposer. Et même pour Dieu, c'est valable. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est effectivement ce que Dieu a mis en œuvre. Jésus n'est ni un méchant, ni un violent. Nous savons pourtant que ses paroles à l'encontre des chefs religieux, des scribes et des pharisiens, par exemple, sont pourtant souvent dures. Et dans ce passage, je ne sais pas si ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve vraiment extrême dans ses paroles. C'est bien à ses disciples, et non pas à des ennemis ou à des chefs religieux, qu'il dit « Si quelqu'un devait causer la chute d'un de ces petits qui mettent leur foi en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui suspende une meule de moulin au cou et qu'on le noie au fond de la mer. » Parle-t-on simplement de gens de l'extérieur ? Non, je ne crois pas. Qui parmi nous n'a jamais péché ? Qui parmi nous n'a jamais péché avec des conséquences sur les autres et avec des conséquences sur d'autres dans l'Église ? En y réfléchissant, il est plus que probable que nous baissons tous la tête en guise d'acquiescement d'une réalité. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui arrache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. C'est le même verset dans la version Bible du Semeur. Quelle violence dans ces paroles de Jésus! Les pierres d'achoppement constituent un réel danger les uns par rapport aux autres. Et c'est la traduction littérale de ce mot scandalon qu'il y a dans l'original grec. Une expression que nous avons aussi vue il y a quelques mois dans différents passages concernant l'apôtre Pierre. C'était fin août, début septembre, si vous avez la curiosité ou vous voulez les réécouter, ces messages qui sont sur le site internet de l'Église. Car tous les disciples sont à la fois source de danger et vulnérables. Nous sommes tous à la fois source de danger pour les autres et vulnérables. Soit parce que l'autre peut me faire chuter, parce que c'est moi, sinon, qui peut le faire tomber aussi dans le péché. Oui, nous le savons, les occasions de chute peuvent se trouver chez les autres membres de la communauté ou à l'intérieur du disciple lui-même. Tout disciple peut être une occasion de chute pour un de ses compagnons, que ce soit par ses actes, par son attitude ou même par son inaction. Et vous avez probablement en tête des exemples que vous avez pu vivre ou observer. Faut-il alors fuir la communauté, éviter l'Église pour éviter les problèmes ? Ouf, merci le coronavirus, grâce à lui, nous allons limiter les risques de chute en restant loin des autres. Bien sûr que non, et même si c'est malheureusement ce que certains font dans des périodes même sans épidémie, on peut le comprendre, une blessure, une chute, ça peut faire mal. Mais le repli n'est en tout cas pas la préconisation du Seigneur en temps normal. Il y a bien plus beau à vivre que la fuite et l'évitement, et on y reviendra dans quelques minutes. Quoi qu'il en soit, Jésus dit, et ça ne rigole pas, hein, qu'il vaudrait mieux que le coupable, pour le coupable d'avoir été cause de chute, cause de péché pour une autre personne, il vaudrait mieux pour lui d'avoir une grosse pierre de meule attachée au cou et d'être jeté au fond du lac. Vaudrait mieux que quoi ? On ne sait pas trop, probablement mieux que de passer en jugement et d'être condamné à cause de cela. Quel jugement ? Probablement le jugement divin. Non, ça ne plaisante pas. C'est une sévérité extrême dans ses paroles. Nous pouvons noter aussi qu'il n'y a aucun détail de quoi l'on parle en termes de péché. Très grave, grave, pas trop grave. Nous savons tous qu'une telle gradation n'existe pas. Même si les êtres humains en ont inventé, elle n'a pas cours selon Dieu. Et Jésus n'en fait pas. Et Dieu nous dit même dans bien d'autres passages que tout péché est grave, extrêmement grave. Même le plus anodin, entre guillemets, que nous on pourrait attribuer comme ça ou classer. Tout est extrêmement grave à tel point qu'il vaudrait mieux mourir tout de suite violemment que de voir les conséquences de nos actes, de notre péché, qui dans un effet domino entraîne un autre ou des autres à aussi pécher. Waouh ! On a déjà connu Jésus plus empathique, hein, plus compatissant et exprimant plus de miséricorde, non? Pourquoi une telle radicalité? Pourquoi cet intégrisme? Qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais péché avec des conséquences sur les autres, avec des conséquences sur d'autres dans l'Église? Tout le monde devrait donc être jeté dans le lac. Jésus veut-il tous nous rabaisser? Non, évidemment, ce n'est jamais son intention. Il ne se réjouit jamais d'un abaissement ou d'une humiliation de l'autre. Mais il nous met la réalité crue et dure bien en face. Jésus nous met la réalité crue et dure bien en face. Des propos extrêmes de sa part pour exprimer, on ne peut plus clairement, une réalité spirituelle, une gravité spirituelle. Certains commentateurs disent que Jésus est dans l'hyperbole, dans l'exagération volontaire pour frapper les esprits. Moi, je pense que ce n'est pas juste une exagération, c'est malheureusement juste la réalité spirituelle dont nous n'avons pas nécessairement pleinement conscience. Tout mal qui est fait, et en particulier quand il y a un impact sur les autres, et il n'y a à vrai dire pas beaucoup de péchés, même peut-être aucun péché que nous fassions qui n'a absolument aucun impact sur les autres, même si là encore nous n'avons pas nécessairement conscience de cela. Tout mal qui est fait est comme étant fait à la propre personne de Christ. Tout mal qui est fait est comme étant fait à la propre personne de Christ. Et lui, il en connaît donc la gravité et les conséquences. Lui, il en connaît donc la gravité et les conséquences. Mieux vaudrait mourir de suite que de subir le juste jugement, la juste conséquence de ce mal que nous faisons. Ça nous assomme un peu, ce genre de parole de sa part. Mais c'est dire surtout toute la valeur de la grâce que nous recevons. C'est dire l'immensité incroyable du pardon dont nous bénéficions. Et je pense que Jésus veut vraiment poser un contraste énorme pour vraiment mettre et faire prendre conscience d'un côté de l'absolu gravité et de l'autre côté de l'absolu beauté, de la grâce et de la restauration. Horreur d'un côté, merveille de l'autre. Et même ces mots sont un peu fades. Ils manquent de force pour exprimer l'absolu du contraste entre les deux. Si seules les personnes dignes de prendre la parole derrière cette chaire ou ce micro, cette caméra aujourd'hui, la prenaient, nos cultes seraient bien silencieux. Et ça ne serait pas seulement à cause d'un problème de coronavirus qui vide nos rangs. Si seules les personnes dignes de se tenir devant Dieu lui chantaient leur louange, il n'y aurait pas beaucoup de chanteurs ni de musiciens. Si seules les personnes dignes d'élever leur voix vers le Seigneur s'exprimaient dans la prière, il est plus que probable que nous pourrions supprimer tous ces moments de prière. Pourtant, nous sommes avec Dieu, ce matin aussi. Il est avec nous chaque jour et j'espère que nous en sommes heureux. À l'écoute de ces versets, nous avons certainement un juste sentiment d'indignité, mais je l'espère aussi davantage encore de la reconnaissance. Oui, une profonde reconnaissance pour le pardon reçu de Dieu en particulier. Et nous devons assurément saisir le fabuleux, l'extraordinaire, l'immérité de notre pardon, de notre rétablissement de la grâce reçue, non pas seulement une fois pour toutes, mais bel et bien chaque jour. Oui, j'espère que ce rappel nous confond et au final nous réjouit. Ne restons pas pétrifiés en pensant à toutes nos fautes, mais regardons à Christ et soyons profondément et totalement reconnaissants de sa grâce et de sa miséricorde. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient, mais quand nous avons abordé la fin du chapitre 18, la dernière fois, sur la patience dans le pardon, à partir de l'encouragement de Jésus, encouragement qui est à la fois commandement, mais aussi promesse, qu'il a fait à Pierre et par ricochet à chacun d'entre nous sur le fait de pardonner son frère jusqu'à 70 fois cette fois, c'est au verset 22 de ce même chapitre 18, nous avions dit que ce n'était qu'à la mesure de la compréhension du pardon dont j'ai été l'objet et dont je suis encore l'objet que je pourrais pardonner mon prochain. Ici, nous retrouvons le même principe. Ce n'est qu'à la mesure de la compréhension de l'horreur de mon péché et de la punition que je devrais subir que je réaliserai l'extraordinaire de la grâce dont je bénéficie. Ce n'est qu'à la mesure de la compréhension de l'horreur de mon péché et de la punition que je devrais subir que je réaliserai l'extraordinaire de la grâce dont je bénéficie. Si ta main ou ton pied doivent causer ta chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou infirme que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil doit causer ta chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans la vie que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Des fois qu'on n'est pas bien compris, Jésus en remet quand même une petite couche, juste pour encore un peu insister. Ce sont presque mot pour mot des paroles que Jésus a déjà dites dans le sermon sur la montagne, en Matthieu 5. Paroles là encore choquantes, je trouve, par leur radicalisme, pour marquer les esprits, pour bien souligner la gravité des choses. Et là, je pense que nous l'avons bien compris. Peut-être avez-vous vu le film 127 heures. 127 heures, c'est le titre de ce film. Le contexte est différent, mais c'est l'histoire d'un jeune homme qui est parti faire une randonnée dans un canyon aux États-Unis. Et quand il fait sa rando, il y a un éboulement et il se retrouve avec la main coincée, écrasée sous un rocher. Et il est ainsi tout entier coincé, seul, au milieu de nulle part. Et le temps passe. Et sa seule possibilité de survie est de se couper l'avant-bras pour se libérer. Et après, donc, 5 jours passés comme ça à se demander ce qu'il va faire, c'est ce qu'il fait au final. Je vous passe les détails de toutes les pensées qui se bousculent en lui et de la douleur qu'il a dû ressentir. Mais il s'est effectivement coupé l'avant-bras pour se libérer. Comme le souligne un commentateur biblique de nos versets, situation critique où il faut réagir de manière radicale, situation exigeant une action contre nature, retrancher son membre affecté et le jeter loin de soi, devoir renoncer à l'un des membres de son propre corps pour échapper au feu éternel, voilà qui révèle la profondeur et la gravité de notre corruption. Comment mettre cet avertissement en pratique? Il ne s'agit évidemment pas d'une interprétation à la lettre. Nous savons bien qu'une automutilation de notre corps ne réglerait pas le problème de fond. Même borgne, nous pouvons convoiter. Même aveugle, nous pouvons jalouser. Même extropié, nous pouvons pécher. Ce qui sort de la bouche provient du cœur. Et c'est cela qui souille l'être humain. C'est du cœur que viennent raisonnements mauvais, meurtre, adultère, inconduite sexuelle, vol, faux témoignage, calomnie. Voilà ce qui souille l'être humain, précise encore Jésus dans un autre passage de l'Évangile en Matthieu 15. Ah, ben c'est bon, il n'y a qu'à arracher le cœur. Bonne idée, problème sera réglé. C'est effectivement une solution, mais c'est sûr qu'avec le cœur en moins, on pêchera beaucoup moins, mais il y a d'autres inconvénients, évidemment. Est-ce la bonne solution? Non, c'est bien qu'au sens physique du terme, non. Mais au sens spirituel, c'est pourtant bel et bien cette solution que Dieu a choisie. Oui, arracher notre cœur, le changer, c'est la solution choisie par Dieu, comme souligné dans les passages, je pense, bien connus de plusieurs d'entre vous du livre du prophète Ézéchiel, par exemple. Ézéchiel chapitre 11, et c'est Dieu qui parle. « J'ôterai de leur être leur cœur dur comme la pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils vivent selon mes ordonnances, qu'ils obéissent à mes lois et les appliquent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Mais pourquoi je suis encore si enclin au péché si mon cœur est changé? Pourquoi encore autant de péchés? Ou si on veut juste utiliser un euphémisme, pourquoi encore autant d'imperfections dans l'Église? L'apôtre Paul s'en peignait pour sa propre vie et la pointait aussi du doigt dans la quasi-totalité des églises auxquelles il a écrit. Jésus dit au verset 7, dans une lamentation plutôt qu'une malédiction, ne comprenons pas mal ces paroles, il dit « Quel malheur pour le monde, il y a tant de causes de chute. » Certes, il est nécessaire qu'il y ait des causes de chute, mais quel malheur pour l'homme par qui cela arrive. Est-ce que c'est juste la faute au monde? Et donc, circonstance atténuante pour nous? Comme nous venons de le voir avec insistance, je ne pense pas qu'il y ait de circonstances atténuantes, non. Nous l'avons abordé aussi ces dernières semaines concernant le monde et concernant Satan. Le problème, c'est avant tout l'influence de ce que nous laissons encore au monde, que nous laissons encore au monde et à Satan dans notre vie. Je ne vais pas m'y étendre à nouveau ce matin, nous l'avons déjà suffisamment fait. Il est nécessaire qu'il y ait des causes de chute, dit Jésus. Mystère des épreuves et des tentations que Dieu, dans sa souveraineté, laisse survenir et même utilise d'une certaine façon. Mais cela ne nous dégage en rien de nos responsabilités. Il y aura présence de scandalones, de pierres d'achoppement jusqu'à la fin du monde, ne soyons pas naïfs. Mais que voulons-nous à faire de ces causes de chute? Que voulons-nous en faire? Nous nous en satisfaisons ou nous nous en horrifions? Nous les tolérons, les banalisons, nous les minimisons? Ou est-ce que nous les rejetons, les mettons en lumière et nous en humilions? Est-ce que nous voulons vivre autre chose? Est-ce que nous voulons vivre autre chose? Il y a tant de fois où malheureusement, je n'ai personnellement pas vraiment envie de vivre autre chose. Et ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Est-ce que je lutte? Est-ce que je veux lutter? Ou est-ce que, fataliste, je baisse rapidement les bras? À moi de décider, à moi de crier à l'aide envers Dieu. Et par rapport aux autres en Église, à nous aussi de décider, à nous de crier à l'aide envers Dieu. Ce texte souligne le soin que nous devons prendre aussi les uns par rapport aux autres, et en particulier le frère ou la sœur qui a chuté ou a été une occasion de chute, qui s'est égaré. La fraternité et l'unité du groupe, comme je le disais tout à l'heure, dépendent des attitudes qui sont entretenues les uns par rapport aux autres. Quel exemple est à suivre? Rien de moins que celui de Dieu. L'exemple à suivre n'est rien de moins que l'exemple de Dieu. Si un homme a 100 moutons et que l'un de ses gardes, dit le texte, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller chercher celui qui s'est égaré? Et s'il parvient à le retrouver, amen, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Le texte similaire dans l'évangile de Luc est à propos de Dieu qui va chercher les perdus pour les sauver. Ici, dans Matthieu, c'est plutôt relatif aux personnes déjà sauvées, mais qui s'égarent, en d'autres termes, qui pêchent. Donc nous tous, potentiellement, et même pas que potentiellement, malheureusement, réellement, Dieu s'empresse de nous chercher et de nous trouver. Dieu s'empresse de nous chercher et de nous trouver. La volonté de notre Père, clairement exprimée ici, est que personne de l'Église ne se perde. Et contrairement à un berger lambda, Dieu parviendra toujours à retrouver toutes ses brebis égarées. Car la volonté de Dieu s'accomplit toujours. La volonté de Dieu s'accomplit toujours. Et je l'ai souligné plusieurs fois dernièrement aussi, rien ni personne ne pourra nous ravir de la main de Dieu. Une fois enfants de Dieu, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, écrira aussi l'apôtre Paul. Ces versets sont ainsi une parabole sur le soin pastoral de Dieu à l'égard des chrétiens. Malgré tout ce que nos actes mauvais mériteraient, comme la première partie l'a bien souligné, oui, Dieu fera tout le nécessaire pour venir nous chercher, si nous nous égarons, et pour nous ramener. J'ai déjà eu la grâce d'expérimenter cela personnellement. Chacun de mes trop nombreux péchés a fait que Dieu est venu me chercher, me ramener. Et je sais ce que c'est le cas pour d'autres aussi, chacun d'entre nous certainement. Et nous, en tant que disciples, comment reproduisons-nous cet exemple divin en prenant soin de nos frères et de nos sœurs qui ont péché? Nous, en tant que disciples, comment reproduisons-nous cet exemple divin en prenant soin de ceux de nos frères et sœurs qui ont péché? Est-ce que nous imitons le Père, aux yeux de qui chacun est extrêmement important? J'espère que plus que la punition d'une faute, notre souci premier est l'effort pour aider et secourir un frère et une sœur qui se trouvent menacés par le péché qu'il ou elle a commis. En tant que pasteur, j'ai eu à mettre cela en œuvre dernièrement. Mes paroles ont pu être maladroites, Mais quelle grâce de la part de Dieu de permettre le renouveau toujours à nouveau. Quelle grâce de la part de Dieu de permettre le renouveau toujours à nouveau. Ce n'est bien sûr pas une raison pour faire n'importe quoi, tout au contraire. Mais quelle grâce de la part de Dieu. C'est magnifique de vivre sa grâce et de voir ce qu'il peut faire, veut faire, quand nous nous l'approprions. Ce qu'il fait dans les vies individuelles, dans les couples, dans les familles, dans l'Église. Je veux vraiment lui rendre gloire ce matin, le louer pour cela. Quel Dieu magnifique et extraordinaire nous avons. Ne nous lassons pas de le dire, de le découvrir et de le redécouvrir. Quel Dieu magnifique et extraordinaire nous avons. Ce n'est pas la volonté de votre Père, de notre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. Ton péché est gravissime, c'est ce que nous dit ce passage, mais je te pardonne. Ton péché est gravissime, mais je te pardonne. Laissons-nous retrouver par Dieu si nécessaire. Empressons-nous aussi de retrouver nos frères et nos sœurs si et autant que nécessaire. Ton péché est grave, mais je te pardonne. Merci Seigneur, sois loué et remercié pour ce que tu fais, ce que tu es et ce que nous pouvons vivre en conséquence. Amen. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin et j'ai juste prié en direct. C'est bizarre de prier devant un ordinateur, mais je sais que vous êtes derrière votre ordinateur aussi et je m'en réjouis. Oui, Seigneur notre Dieu, quel privilège de te connaître. Tu es un grand Dieu redoutable et nous pourrions avoir peur. Mais merci d'être révélé, de t'être révélé à nous comme le bon berger, comme notre Père aimant, comme celui qui pardonne, comme celui qui restaure. Quel privilège de pouvoir vivre cela. Et nous te prions de nous aider, Seigneur, à toujours nous empresser quand nous tombons, de toujours revenir à toi et de te laisser venir à nous. Aide-nous aussi, Seigneur, en Église, en tant que frères et sœurs, à non pas être à espionner les autres, à les pointer du doigt, mais être vraiment comme toi, empressé de les retrouver, de les aider à se relever, à se reconstruire, à se pardonner. Merci parce que par ton esprit, c'est possible. Par ton esprit, nous pouvons le vivre. Quelle grâce de ta part et je te loue pour cela. Merci de bénir chacun, chacune, Seigneur, là où il se trouve aujourd'hui. De protéger de tout virus, mais en tout cas de garder dans ta paix, de garder dans la confiance en toi et dans la joie du pardon, du salut reçu. Fortifie notre espérance, Seigneur, fortifie notre foi. Et merci, merci pour la joie de te connaître. En Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci à toutes et à tous de votre présence pour ce culte. Pour ce qui concerne les annonces, elles vont être réduites, évidemment. Donc, il n'y a pas de réunion cette semaine. Je me permettrai d'essayer d'appeler certains d'entre vous, sinon la plupart. Profitez aussi également de téléphoner les uns aux autres. Il n'y a pas de risque, les microbes ne se transmettent pas par téléphone. Qu'on puisse vraiment prier aussi les uns pour les autres, se soutenir de cette façon-là. Que Dieu vous bénisse chacun, qu'il vous fortifie. Soyez des sources de bénédiction autour de vous, dans vos foyers et au-delà, que vous apportiez aussi la paix à ceux qui sont peut-être dans la crainte et dans la peur en ce moment avec ce virus. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt, semaine prochaine, on refera un autre culte, on verra comment on refait le format. Faites-nous vos retours aussi de ce que vous en avez pensé, de ce qu'on pourrait améliorer. Et merci à chacun. Bon dimanche.
Aussi longtemps mes fautes, mes péchés. C'est ainsi que nous pouvons te prier, sans repousser ce temps de vérité. Même si déborde les grandes eaux, nous ne serons pas atteints par leurs flots. Tu me préserves de la détresse. Tu es celui en qui je place ma confiance. Tu m'entoures de chants de délivrance. Oh, 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 oh. Tu m'as déchargé, oh, tu m'as déchargé. So